Vous écoutez RTL.
7h43, Langue l'écho avec vous, François Langlais.
Bonjour à tous.
Le projet de loi El Khomri réforme profondément le droit du licenciement.
Oui.
Et c'est selon vous le cœur de cette réforme.
Ben oui, c'est le licenciement économique en particulier qui sera transformé si le texte aboutit en l'état, puisque l'employeur pourra en déclencher même si l'entreprise n'est pas en risque vital. Il suffira de se prévaloir de la baisse du chiffre d'affaires, par exemple durant deux trimestres consécutifs par rapport à l'année précédente, ou bien d'une baisse de la trésorerie, baisse alarmante, on imagine, ou d'une autre difficulté économique. Dans le même ordre d'idée, une entreprise en difficulté qui serait rentable par ailleurs, c'est-à-dire dans un autre pays ou dans une autre activité, pourra également licencier, alors qu'aujourd'hui, ça n'est pas toujours le cas.
Alors, que cherche-t-on exactement avec ce texte?
Le gouvernement cherche à supprimer ce que les patrons appellent la peur de l'embauche, qu'il a peur de recruter des salariés dont on ne peut plus se séparer, même si la conjoncture se retourne, sauf à payer des indemnités très importantes. La peur de l'embauche, elle provient du risque qui pèse sur l'entreprise. Et le projet de loi veut déplacer ce risque et le faire reposer davantage sur les salariés, non plus seulement sur l'entreprise. C'est pour ça d'ailleurs que même les syndicats réformistes comme la CFDT ne suivront pas sur cette partie.
Alors, est-ce qu'elle existe vraiment, cette peur de l'embauche?
Écoutez, c'est difficilement contestable. Le risque pour l'entreprise provient en fait de l'immixtion des juges. Aujourd'hui, en cas de contestation des licenciements, relativement fréquente, hein, ce sont les magistrats qui décident de la validité d'un plan social. Or, ils n'ont souvent qu'une idée très approximative de l'entreprise et de ses contraintes. Elle est d'ailleurs parfois idéologique. Et puis deux, c'est le plus important, tout ça produit un fatras de jurisprudence saugrenue, contradictoire, illisible. Autrement dit, on va au tribunal et c'est la roulette russe. Ce projet vise en réalité la judiciarisation excessive des relations sociales.
Bah alors les embauches vont repartir?
C'est pas sûr que ça soit suffisant. Parce que la flexibilité ne crée pas en elle-même des emplois. Elle permettra de mieux profiter de la reprise lorsqu'on aura la reprise. Hollande fait un peu comme Schröder, le chancelier allemand, qui avait profondément transformé l'Allemagne en faisant lui aussi porter davantage les risques sur les salariés. C'était en 2003-2004. Et en 2005, il a perdu les élections. Et c'est son successeur, une femme, Angela Merkel, qui a profité de ces réformes lorsque la croissance est revenue.
Alors, il y a une chose qui m'étonne évidemment dans tout cela. Pourquoi faut-il faire porter les risques, on va dire, davantage sur le salarié, alors qu'avant, la France s'en sortait très bien sans cela?
C'est la question clé. Et curieusement, elle n'est jamais abordée par les hommes politiques. Avant, en réalité, nous avions la flexibilité monétaire, c'est-à-dire la possibilité de dévaluer la monnaie en cas de problème pour rétablir la compétitivité. Et la France l'a fait de façon continue, de 1914 à la création de l'euro. C'est-à-dire tout au long du XXe siècle, ça a été notre instrument privilégié. À chaque fois qu'il y a eu des conquêtes sociales, il y avait de lourdes dévaluations derrière pour compenser. En 36, avec le Front populaire. En 68, les accords de Grenelle. En 81, élection de Mitterrand. Et on a perdu cet instrument avec l'union monétaire. Dans un premier temps, on a compensé avec la dette, c'est-à-dire la possibilité de dépenser davantage. Et puis la dette s'est trouvée aussi interdite à cause de la crise économique. Les deux routes étaient fermées, la dévaluation et l'endettement. Du coup, on cherche la flexibilité ailleurs, sur le marché du travail. C'est le salarié qui paye pour la rigidité monétaire.
François Langlais, tous les matins sur RTL.